RCF.
Au fronton d'écoles publiques anciennes, il est fréquent de lire « école de filles » ou « école de garçons » gravées dans la pierre. Ces inscriptions nous rappellent que la mixité dans l'éducation est un phénomène récent, car ce qui nous semble une évidence aujourd'hui était impensable pendant très longtemps. Mélanger les filles et les garçons au sein d'établissements scolaires et en particulier au sein des collèges ou des lycées était une pratique qui ne s'est généralisée qu'au XXe siècle. Et c'est cette thématique que vous étudiez, Geneviève Peseux, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez un ouvrage qui s'intitule « Des filles chez les garçons, l'apprentissage de la mixité ». Ce livre est publié aux éditions Vendémiaire. Vous êtes historienne, spécialiste en sciences de l'éducation et cette question de la mixité est au cœur de votre étude. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette thématique qui, manifestement, reste encore assez peu explorée par les historiens ?
Ah oui, les historiens et les historiennes, surtout, l'explorent depuis pas très longtemps. Il y a quelques spécialistes. Mais en fait, c'est plutôt que cette histoire-là n'était pas faite jusqu'à mon travail pour le XXe siècle. Rebecca Rogers avait pas mal travaillé sur le XIXe siècle, ainsi que Michel Zancarini-Fournel. Mais en effet, l'histoire de la mixité n'était pas faite parce que cette question-là n'a pas intéressé beaucoup les pédagogues, les éducateurs, les éducatrices, les enseignants et les enseignantes jusque dans les années 90 et 2000.
Et il n'est pas anodin que vous souligniez que ce thème intéresse essentiellement les historiennes.
Oui, ce sont les historiennes de l'éducation qui se sont emparées du sujet. Il y a un historien, c'est Yves Verneuil aussi, qui a travaillé sur cette question dernièrement.
Ça dit quelque chose évidemment de l'histoire de l'éducation, de la façon dont les filles ont été considérées pendant longtemps et de leur accès à l'éducation, cette porte d'entrée de la mixité.
Oui, tout à fait. Ça m'a vraiment obligée à faire aussi une histoire de l'éducation des filles au XXe siècle, puisque je me suis surtout intéressée au XXe siècle. Et d'ailleurs, Françoise Mayer a beaucoup travaillé sur nous a fait une anthologie de l'histoire de l'éducation des filles au XIXe siècle, jusque dans les années 1920-1930. Mais sur celle des filles du XXe siècle, il n'y a pas une somme générale. Donc ce sont des études, des recherches ponctuelles qui permettent d'avoir une vision de ce que les filles ont vécu dans le système éducatif français.
Alors, il faut s'arrêter sur ce mot de mixité parce que vous y arrêtez dans le livre. Il vient d'où ce mot et qu'est-ce qu'il évoque? Qu'est-ce qu'il dit?
Alors, ça ressemble un peu à l'histoire du terme laïcité. Parce que j'ai découvert que finalement, ce mot n'est écrit pour la première fois qu'en 1956 dans un article publié par les Cahiers pédagogiques.
Ça veut dire qu'avant, l'idée n'existait pas ou qu'on l'appelait d'une autre façon?
C'était le substantif mixité qui n'existait pas. Par contre, il y avait des écoles mixtes et des classes mixtes depuis longtemps, depuis même les années 1830, sous Guizot. L'école primaire faisait que des classes de garçons accueillaient des petites filles.
Et alors, on parlait de quoi à ce moment-là?
De classes mixtes. On l'utilisait, le mot mixte, mais pas la mixité en tant que telle.
Alors vous parlez d'autres termes comme coéducation ou gémination.
Oui. Coéducation, en fait, c'est le terme générique depuis le départ qui vient des États-Unis, coeducation. Et en plus, aux États-Unis, on pratiquait la coéducation dès le 19e siècle. On a construit le système éducatif américain sur le principe du mélange des filles et des garçons en primaire et secondaire. Alors que ce n'était pas forcément le cas dans les classes maternelles ni à l'université. Inversement, en Europe et en France en particulier, mais dans les autres pays européens et surtout méditerranéens, on ne pratiquait pas ce mélange des filles et des garçons. Parce que mixte, c'est finalement un mélange un peu informel, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, que l'on veut homogène. D'ailleurs, on ne parle plus des filles et des garçons, on parle des élèves. C'est un mot épicène, neutre, d'une certaine façon. On est dans un sorte de groupe qui se veut homogène, qui veut proposer à tous et à toutes la même éducation. C'est une forme d'amalgame qui se fait dans l'indifférenciation des sexes.
Maître Jacques le notaire,
Maître Jacques le notaire,
à Saint-Pierre marié,
à Saint-Pierre marié,
la première est très austère, elle doit avoir 40 ans, c'est l'image de sa mère, elle mène tout en bourbattant. C'est dommage, mais qu'importe, et que le diable l'emporte. Parlons, parlons, parlons. Maître Jacques le notaire,
Maître Jacques le notaire,
à Saint-Pierre marié,
à Saint-Pierre marié,
la deuxième comme son père, a de la barbe au menton.
La suite de l'histoire. Revenons au 19e siècle, qui est le début de votre étude. Au 19e, comment est-ce qu'on envisage l'éducation des filles ?
Alors, on l'envisage, mais on l'envisage avec retard par rapport à celle des garçons. Toute la réglementation de l'école qui se construit est à retardement.
C'est-à-dire un retardement.
Eh bien, en 1833, par exemple, la loi Guizot impose aux petites communes de 500-600 habitants d'organiser une école pour sa population, mais elle est pensée et destinée aux garçons. Et puis, quelques années plus tard, Guizot, d'ailleurs toujours, propose que les communes ouvrent aussi des écoles pour les filles. Et ce n'est qu'en 1880 que la loi C réussit à imposer un enseignement secondaire pour les jeunes filles. Il y avait eu des embryons de cours secondaires, mais ça n'avait pas été une organisation portée par l'État.
Mais ça n'est pas une priorité, l'éducation des filles ?
Je ne sais pas si c'est le bon terme, priorité. Ce n'est pas une histoire de priorité, c'est que ce n'est pas pensé pour que les filles reçoivent la même éducation que leurs frères, leurs cousins, leurs voisins. Les garçons, ils vont aller sur le marché du travail et il faut leur donner un bagage culturel qui leur permettra de passer les examens, les concours, les étapes et puis d'avoir une situation. Pour les filles, on le pense, parce que d'ailleurs l'enseignement privé et l'enseignement des congrégations religieuses ont pris en charge l'éducation
des filles.
Des filles
et
depuis
des longtemps.
Oui, depuis longtemps. Alors, c'était plutôt les filles privilégiées, des catégories sociales que l'on appelait la bourgeoisie ou des classes aisées. Mais ce n'est pas le même dessin que l'on imagine.
Alors, pourquoi est-ce qu'on les éduque, ces filles? Dans quel but?
Eh bien, on les éduque pour devenir de bonnes mères de famille, de bonnes futures éducatrices et de bonnes épouses. On aura toujours le souci, très longtemps, par exemple, à leur imposer des cours de couture ou de chant. On insiste sur leur niveau de langues étrangères pour bien communiquer. On les oriente davantage dans des filières littéraires qui vont leur donner une culture
générale.
Générale, ouais. On évite la philosophie, par exemple, parce que ça pourrait être un peu subversif.
Leur donner à penser.
Oui, ouais. Alors, elles ont des cours de morale, de psychologie aussi.
Donc il faut qu'elles aient un bagage, mais pour, comme vous l'avez dit, être de bonnes épouses, de bonnes mères de famille et pouvoir gouverner une maison en quelque sorte.
Oui, gouverner une maison, être à l'aise en public pour faire bonne figure. Et puis aussi l'idée d'être des bonnes éducatrices qui vont mener leurs enfants, filles et garçons, vers un chemin moral de bonne qualité.
Il y avait trois jeunes garçons par un beau dimanche sur la route blanche des marchés. La la la, qui chantaient. Il y avait là sur le gazon par un beau dimanche Mademoiselle Blanche, une fille très gentille qui rêvait.
Et le soleil rit à pleine dent, et ses rayons illuminent la terre. L'amour courait sur tout le continent,
cherchant les cœurs en quête de lumière. Il y avait trois jeunes garçons par un beau dimanche sur la route blanche du marché qui chantaient.
Ça veut donc dire que l'éducation qui est proposée aux filles et celle qui est proposée aux garçons ne peut pas se faire dans un même endroit et par les mêmes personnes. Il faut des lieux distincts parce que ça n'est pas compatible.
Je pense qu'il ne faut pas poser la question comme ça. C'est même pas penser il ne faut pas ou il faut. C'est pas pensable. C'est pas imaginable.
Pourquoi c'est pas pensable?
Parce que pendant longtemps, l'école primaire, apprendre à lire, écrire, compter, ça, tout le monde y a droit et en est capable. Mais puisqu'on n'a pas les mêmes visées sur ce que vont devenir les uns, les unes et les autres, eh bien.
La question ne se pose même pas.
La question ne se pose pas. C'est à partir du moment où des jeunes filles ont poussé les portes parce qu'elles avaient envie d'atteindre un niveau d'instruction et d'éducation qui allait aussi leur permettre d'avoir une place dans la société qui n'est pas celle d'être seulement à la maison. Pouvoir
de faire une carrière, quoi, elle aussi.
Voilà, d'enseignant ou d'enseignante, d'enseignante plutôt, parce qu'on parle des filles, dans le journalisme, ou de devenir médecin, ou de devenir juriste. Enfin, toutes les possibilités peuvent ambitionner.
L'éducation, en attendant qu'il leur ait été offerte, elle se faisait où?
Ce sont les écoles privées.
Privées, toujours.
Les écoles libres, les écoles confessionnelles. Et à partir de 1880 et la loi C, l'État prend en charge la construction d'un certain nombre de lycées qui vont être dédiés à l'éducation des jeunes filles. Alors, il y a aussi des lycées dans les grandes villes et les collèges qui sont entre les mains des municipalités dans des villes moyennes moins peuplées.
On commence au collège dans sa ville et puis ensuite on peut aller au lycée dans une ville plus importante.
Par exemple? Mais le nombre d'établissements est beaucoup moins nombreux. Mais là, quand on parle de lycée et de collège, on parle de l'enseignement public.
Public, d'accord. Comment ça s'appelait pour l'enseignement privé?
Des écoles de jeunes filles.
Geneviève Peuzeux, nous poursuivons avec vous l'évocation de cette histoire de la mixité dans l'éducation entre le 19e et le 20e siècle. J'aimerais qu'on revienne un instant sur cette distinction qu'il faut faire et sur laquelle il faut peut-être insister entre l'école primaire et puis ce que nous aujourd'hui on appelle l'école secondaire. Comment ça s'organise au 19e siècle et au début du 20e?
Oui, toute la première moitié du 20e siècle. En fait, c'est assez séparé. L'école primaire, elle est destinée à tous les enfants de la population française. Elle a été payante jusqu'à ce qu'elle devienne gratuite, obligatoire et laïque en 1881 et 1882 et les lois Jules Ferry. Et elle est destinée à la population...
quel que soit le milieu social.
Quel que soit le milieu social. Bien que les enfants de la bourgeoisie préféraient être envoyés dans les collèges et les lycées, qui, eux, offraient aussi une scolarité de ce que l'on appelait la 11e, jusqu'en première, puis la classe philo pour le bac philo, mathélème pour le bac scientifique. Donc les collèges et les lycées offraient aussi une scolarité complète de ce que l'on appelait le cours préparatoire dans l'école publique primaire jusqu'à l'obtention du baccalauréat. Et c'était les populations les plus aisées, avec un bagage culturel suffisant et qui avaient les moyens financiers aussi pour payer cette scolarité.
La population moins riche s'arrêtait aux primaires?
Alors, elle s'arrêtait aux primaires jusqu'à l'obtention de ce fameux certificat d'études. Mais il y a un pan de l'école que l'on oublie souvent de mentionner parce que ça a disparu en 1941 avec Jérôme Carcopino qui a mis fin. Ce sont ce que l'on appelle les écoles primaires supérieures. Et ces écoles primaires supérieures, elles sont gérées par l'ordre du primaire. Parce qu'il y avait l'ordre du primaire et l'ordre du secondaire. Donc, au niveau ministériel, ça dépendait de l'ordre primaire. Et ces écoles primaires supérieures, elles proposaient 3 ans ou 4 ans de formation complémentaire, proche de ce premier cycle de collège, entre la 6e et la 3e, et qui permettait à des filles comme à des garçons, alors ils étaient séparés aussi, hein, il y avait les EPS de filles et les EPS de garçons, qui donc leur offrait la possibilité de passer des concours style concours des postes ou bien de rentrer à l'école normale pour devenir des futures institutrices ou des futurs instituteurs. C'est ce qu'on appelait l'école du peuple. Enfin, en tout cas, c'est l'ouvrage de Briand et Chapouly qui a vraiment mis en lumière tout ce pan de l'éducation qui a joué un rôle énorme et qui a même été une concurrence pour l'enseignement secondaire.
La suite de l'histoire, Véronique Elzieux.
À partir de quel moment des jeunes filles manifestent-elles le désir de pouvoir accéder à l'éducation qui est proposée aux garçons en vue d'une carrière dans les métiers que vous avez précédemment évoqués et qui jusque-là n'étaient possibles que lorsqu'on était un homme?
Le point de départ, c'est finalement lorsque Julie-Victoire Daubier obtient l'autorisation de passer le baccalauréat et de l'obtenir en 1861. Finalement, elle est la représentation et la représentante de ces femmes, parce qu'elle, elle avait déjà 35 ans, mais de ces femmes et de ces filles qui poussent la porte du système éducatif destiné aux hommes.
De qui est-ce qu'elle obtient cette autorisation?
C'est à Lyon qu'elle a pu passer le baccalauréat, alors que l'Académie de Paris le lui refusait depuis quelques années.
Pourquoi est-ce qu'on le lui refusait?
Parce que c'était une femme. Et on n'imaginait pas, et on ne pouvait accepter le fait qu'une femme puisse atteindre les mêmes niveaux.
En tout cas, les mêmes ambitions qu'un homme.
Oh, oui, et en plus, derrière, ça voulait dire ça.
C'était une histoire de quoi? De mentalité avant tout? Ou de loi?
Non, c'est la mentalité.
Mentalité. Ouais.
Le 19e siècle est extrêmement patriarcal. Il l'est plus que le siècle précédent. Hein. Il a assis la place des hommes dans le système économique et politique de façon incroyablement forte. On en est encore tributaire.
Donc, elle obtient cette autorisation auprès de l'Académie de Lyon.
Ouais.
Elle obtient ce baccalauréat. Et puis?
Et puis à partir de là, bien, ça a été un peu la porte ouverte à certaines filles très brillantes hein, et très travailleuses de continuer à demander des autorisations. Alors, elles ne fréquentaient absolument pas les établissements de garçons. Hein. Elles étaient obligées de travailler toutes seules, de prendre des cours particuliers pour pouvoir atteindre le niveau attendu et demandé. Mais petit à petit, Madeleine Bresse va obtenir le baccalauréat et rentrer elle rentre pas puisqu'elle n'a pas le droit d'y aller, mais de pouvoir faire des études de médecine et devenir médecin. Et puis ce sont aussi des femmes qui vont devenir des juristes, surtout dans ces domaines-là.
Donc
l'enseignement, la médecine, le droit, qui sont les universités qui vont donner des diplômes aux jeunes femmes.
Alors elles n'ont pas le droit de préparer l'examen du baccalauréat sur les mêmes bancs que les garçons.
Oui.
Par contre, elles valident leur diplôme et ensuite...
Candidates libres. Elles sont candidates libres.
Et les études qu'elles poursuivent ensuite pour devenir juriste, médecin ou avocat?
C'est en s'inscrivant dans les universités.
Où là, elles ont le droit de s'y présenter?
Ça a été long. De toute façon, ça se fait dans la
durée.
Dans la durée, et ça ne s'est pas fait partout de la même façon. Chaque université a son histoire avec ses autorisations.
Comme tous les matins, tu es passé devant ce miroir, ajuster ce voile sur tes cheveux qui devra tenir jusqu'à ce soir. Tu m'as dit au revoir d'un regard avant de quitter la maison. Le bus t'emmène à la fac où tu te construis un horizon. Je suis resté immobile et j'ai pensé très fort à toi, réalisant la joie immense de te voir vivre sous mon toit. C'est vrai, je ne te l'ai jamais dit, ni trop fort, ni tout bas.
Pourquoi est-ce que le baccalauréat représente un sésame?
Parce que c'était le diplôme pour entrer dans l'université. Alors, en fait, au départ, les établissements de jeunes filles, ces lycées issus de la loi de Camille C, ne préparent pas au baccalauréat. Au contraire, il est prévu pour ces filles un diplôme qui se prépare en 6 années et non 7 comme pour le baccalauréat. Et c'est un diplôme, en fait, qui évalue un niveau culturel, mais qui n'a aucune portée pour suivre des études supérieures.
Alors que le baccalauréat, c'est la porte d'entrée.
Oui, d'ailleurs, c'est le premier examen pour entrer à l'université, et c'est toujours le cas.
Et il a quelque chose de prestigieux, beaucoup plus qu'aujourd'hui, à l'époque?
De toute façon, il y a tellement peu de personnes qui puissent le présenter. C'est de l'ordre de 3% de la population générale. Donc, en effet, c'est très prestigieux aux yeux du reste de la population.
D'avoir son bac.
Bah oui, d'avoir
son baccalauréat.
Son bachot même.
Son bachot, oui, comme on disait. Donc, demander une dérogation, c'est quelque chose d'assez audacieux.
Ah oui, vraiment. C'est vraiment des audacieuses, toutes ces filles qui vont se présenter et s'accrocher pour obtenir un baccalauréat.
C'est mal vu?
Oui, ça peut être assez difficile pour elle de vivre cette situation. Je pense d'ailleurs à un entretien de Odette Brunjvik, qui est devenue inspectrice générale dans l'éducation nationale après la Deuxième Guerre mondiale, et qui raconte comment elle préparait le bachot, je crois que c'était en 1919, et le fait qu'elles étaient un peu obligées de se cacher parce que c'était pas forcément bien vu dans leur établissement de filles, parce que quelque part elles transgressaient le système. Ça gêne la norme.
L'ordre moral.
Et l'ordre.
Au niveau aussi des familles, ça génère une incompréhension.
Je ne crois pas. Au contraire, et plus j'avance, plus je le crois, que ce n'est possible que si elles sont accompagnées par leurs parents. Et ce que je remarque, et on peut encore l'entendre quand on interroge des femmes qui ont fait des études longues, c'est le rôle de leur père. Lorsque les pères ont de l'ambition pour leurs filles, les mères, elles en ont de l'ambition pour leurs filles. De manière générale, elles se projettent dans leurs filles et les filles peuvent avoir envie ou de devenir comme leur mère ou au contraire de s'affranchir de la place que leurs mères peuvent avoir dans la société. Mais je suis de plus en plus certaine que lorsque les pères accompagnent leurs filles, les poussent, sont d'accord dans leur ascension éducative, ça leur donne des ailes. Et ça leur permet vraiment de dépasser les barrières qu'elles ont toutes vécues, de toute façon.
Est-ce qu'on pense à ce moment-là qu'il y a un obstacle en termes aussi de capacité intellectuelle ?
De toute façon, toutes les filles qui ont passé les obstacles sont des filles très brillantes, à la fois travailleuses et à l'aise. Mais il y a une pensée un peu partagée, qui s'est construite au cours du 19e siècle par des études, je pense à De Broca sur le cerveau, qui pensaient que finalement les filles n'avaient pas les mêmes capacités intellectuelles que les garçons. Et en particulier l'abstraction.
Concept.
Oui, on imaginait qu'elles n'avaient pas les mêmes moyens de rentrer dans l'abstraction, de pouvoir faire donc des mathématiques qui ne seraient pas des mathématiques pratiques. Donc les sciences, ça ne pouvait pas forcément être des matières qu'elles pouvaient acquérir facilement. Donc on les freinait, mais c'est un système en fait général qui freine.
Et elles en étaient peut-être elles-mêmes un peu convaincues.
Ah ben c'est ça le système, hein, c'est que il y a de l'auto
persuasion et de l'autocensure.
De l'autocensure sur ce que l'on est en capacité de faire ou d'avoir envie.
Geneviève Peuzeux, à la veille de la Première Guerre mondiale, est-ce qu'on est en mesure de dire combien de filles avaient réussi l'examen du baccalauréat ? On a des statistiques à ce sujet ?
Oui, en particulier Jeanne Crouzet-Benaben, qui dirigeait le SJF, qui était la revue de l'enseignement secondaire des jeunes filles du bulletin universitaire, a fait une comptabilité du nombre de jeunes filles qui obtenaient le baccalauréat entre 1913 et 1926. Et en 1913, on a 346 jeunes filles qui obtiennent le baccalauréat, dont 46 dans la section mathématiques. Et ça ne cesse de croître, puisque en 1926, on a 2134 jeunes filles qui sont détentrices du baccalauréat. Donc c'est une
ascension, ouais.
Et une ascension rendue possible d'ailleurs par la légalisation et la législation.
Alors on va y revenir, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur la Première Guerre mondiale, où on a vu à quel point le rôle des femmes a été précieux pour continuer à diriger une ferme, pour se mettre au travail, aller travailler dans les usines. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a là une des clés du processus qui conduit à une mixité un peu généralisée ?
Eh bien, je ne crois pas. Quand on s'intéresse à l'histoire du féminisme et des féministes, avant la Première Guerre mondiale et même ensuite, elles vont surtout se battre pour obtenir des droits civiques et en particulier tenter d'obtenir le droit de vote. Et avant la Première Guerre mondiale, il y a quand même un mouvement important de femmes qui réclament la coéducation et qui sont favorables à ce que les filles puissent être sur les mêmes bancs de l'école que les garçons, en particulier dans l'enseignement primaire. La Première Guerre mondiale, c'est un véritable bouleversement, mais en fait, après la Première Guerre mondiale, les féministes continuent leur combat pour les droits civiques, mais elles ne vont plus tellement sur le champ de l'éducation. Et c'est pas la guerre qui va être à l'origine de ce mouvement, qui est très silencieux, qui concerne finalement peu de monde, peu de filles, même si sur tout le territoire et beaucoup d'établissements vont accueillir un certain nombre de filles.
Alors si c'est pas la guerre, qu'est-ce que c'est? Puisqu'on passe en 13 ans, ce qui est très peu, de 346 à plus de 2000 bachelières.
Oui, mais en fait c'est rien à l'échelle de la population française. Ce
ça
n'est
reste
rien.
Anecdotique, en fait, c'est mais que, quand même.
Alors, peut-être hein, qu'il y a un désir de faire des études, mais d'abord parce qu'il y a aussi quatre écoles d'ingénieurs qui, en 1917, vont ouvrir leurs portes au concours pour les filles parce qu'elles se rendent compte qu'il y a un tel carnage chez les jeunes hommes qu'il faut aussi penser à l'avenir et peut-être avoir des femmes ingénieures. L'EPF, l'École Polytechnique Féminine, ouvre en 1925. Mais je pense que c'est plutôt une évolution et une ouverture de la société française, des mentalités.
C'est un processus inéluctable, quoi.
Oui, oui. Même si les chocs, comme une guerre, évidemment, ouvrent les yeux. Et puis, on manque de maris aussi. Il faut que les femmes s'autonomisent et puissent avoir une vie professionnelle parce qu'elles ne sont pas du tout sûres de pouvoir avoir un compagnon, un conjoint qui subviendra à leurs besoins.
Si les mentalités...
Mais c'est toujours une élite, en fait. Hein. C'est vraiment une élite chez les...
Sociale, vous voulez dire
Oui.
Chez les plus riches, quoi.
Oui, mais pas forcément financièrement. C'est un capital culturel et intellectuel de cette société. Ce n'est pas la haute bourgeoisie qui va insister pour que les filles fassent des études secondaires qui vont les amener à faire des études supérieures. Elle est dans la tradition catholique. Le pape n'est pas du tout favorable non plus. Je ne dis pas qu'il n'est pas favorable à l'éducation des filles, hein, mais en tout cas, il va y avoir une encyclique qui condamne vraiment la coéducation en 1929. Et puis, on a l'idée que les filles doivent être éduquées plutôt... Enfin, je parle de ces jeunes filles de la bonne bourgeoisie ou haute bourgeoisie, dans des établissements privés, confessionnels, souvent en internat.
Toujours donc pour être de bonnes épouses, de bonnes mères et de bonnes éducatrices.
Et oui.
La suite de l'histoire.
Peut-être que un des signes de l'évolution des mentalités, c'est la législation que vous avez évoquée.
Oui.
Comment cette idée de graver dans le marbre, en quelque sorte, la possibilité qui s'offre aux filles de faire des études intervient ?
Eh bien, on ne le grave pas vraiment dans le marbre, parce qu'on a dans l'idée que ça va toujours être provisoire. La norme reste l'idée que des établissements sont dédiés aux filles et les établissements sont réservés aux garçons. Il n'est pas pensable qu'un jour... Enfin, là, je reste dans l'entre-deux-guerres. Mm-hmm. Il n'est pas pensable qu'on propose un système de co-instruction, de co-enseignement ou de co-éducation. L'État, le ministère, ne fait jamais de loi, si ce n'est la loi sur la gémination de 1933, mais propose des circulaires qui aménagent l'état de fait. Et l'état de fait, c'est que des filles veulent préparer le baccalauréat. Pour le préparer, il leur faut des cours qu'elles ne peuvent pas suivre dans leur propre établissement, puisque leur établissement ne les prépare qu'au diplôme. Et donc, font des demandes et poussent la porte, quoi. Donc, après tergiversation, discussion, eh bien, des circulaires vont se succéder. D'abord, en ce qui concerne les lycées, c'est-à-dire ces gros établissements pris en main et financés par l'État. Ensuite, une législation qui va concerner les collèges qui sont, eux, administrés et financés par les municipalités.
Donc là, on est sur de la coéducation ?
Non.
On est encore
En fait, je dis non, parce que je fais une différence entre coéducation et puis, ce qui est le cas, c'est de la co-instruction ou du co-enseignement. Alors, pourquoi je fais la distinction? Parce que, en français, quand on parle d'éducation, c'est un tout. On est éduqué intellectuellement, mais on est aussi éduqué à vivre ensemble. C'est une éducation, j'allais dire civique, hein, de bien vivre ensemble. Et dans coéducation, eh bien, il y a cette idée-là, c'est que l'on apprend à vivre ensemble tout en apprenant ensemble. Ce qui n'a jamais été le cas, ni pensé comme ça, lorsque on a mis en place les moyens de co-instruire ou co-enseigner, c'est-à-dire que des filles étaient à côté des garçons ou étaient avec les garçons dans une même salle de classe pour apprendre, mais ensuite en évitant au maximum, au contraire, les relations sociales. Et il n'était pas envisagé de les voir dans des relations sociales qui leur permettraient d'ailleurs de mieux se connaître et peut-être d'avoir des relations
amoureuses, notamment.
Ça, on n'en a pas du tout envie. En fait, c'est ce qu'on veut éviter. Dans cette réticence au mélange, c'est derrière la question de la sexualité qui est en jeu.
Ça veut
dire cette sexualité adolescente qui inquiète toujours les adultes.
Elle rentrait de l'école le long des champs de fleurs, le cœur plein de pensées folles pour le fils du coiffeur. Elle rentrait de l'école et son rire s'envolait au milieu des tournesols et du vent parfumé. Moi, un jour, se disait-elle, j'aurais de longs, longs cheveux. Dans les tours de la ville nouvelle, je trouverai mon vrai amoureux. Moi, un jour, j'irai plus les yeux de quelqu'un, ce sera dans le journal du matin.
On met en place des choses très concrètes, matérielles, pour justement maintenir une certaine distance entre les sexes.
Oui, alors finalement, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que dans l'entre-deux-guerres, une série de circulaires vont permettre aux établissements d'accueillir un certain nombre de jeunes filles dans les classes de garçons. Au départ, ça ne concerne que les grandes classes, première, terminale et classes préparatoires, parce que les filles vont dans des classes préparatoires aux grandes écoles pour ensuite rentrer dans des écoles d'ingénieurs. Ensuite, ça se répand pour qu'elles puissent arriver en 6e, 5e, 4e, 3e. Donc ça, c'est une première chose. Elles sont peu nombreuses. Et les établissements doivent bien s'organiser pour qu'elles rentrent dans les locaux. Mais on essaye par tous les moyens qu'elles ne côtoient pas de façon serrée leurs camarades. Donc il pouvait y avoir des entrées séparées, des cours séparés, ou alors elles n'allaient pas en récréation et elles avaient une salle pour passer leur récréation, mais enfermées les unes avec les autres.
Réfectoire distinct.
Le réfectoire, c'est dans les années 60, mais sinon elles n'avaient pas le droit à la demi-pension. Absolument inimaginable. C'était des externes. Il n'y avait même souvent pas de toilettes. Hein. Elles devaient attendre de rentrer chez elles pour aller aux toilettes.
Et dans les classes, elles sont séparées des garçons ?
Oui. Alors, soit c'est assez amusant. Enfin, d'abord, les sources sont quand même peu nombreuses, hein, parce qu'il y a peu de descriptions. Mais quand il y en a, soit on les mettait devant. Les enseignants aussi sont un peu perdus hein, de recevoir des jeunes filles dans les classes de garçons, ce qui est très 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 rare. Hein. Il n'y a jamais eu de garçons, en particulier dans l'enseignement secondaire, qui sont allés chez les filles. Donc c'est toujours dans ce sens-là. Alors, soit ils les mettaient devant pour bien les surveiller, pour s'assurer qu'elles comprennent aussi, hein, parce qu'on ne sait pas très bien. On ne sait jamais. Ou alors, il y a certains professeurs qui préféraient qu'elles soient derrière pour éviter que les garçons les reluquent et soit perturbé par la présence des filles. Alors c'est un peu dans leur imaginaire aussi hein, que se fabrique ce genre d'organisation pratique.
Mais on prend des précautions.
Mais on prend des précautions, ouais.
«
Nous poursuivons, Geneviève Peuzeux, l'évocation de l'histoire de la mixité ou co-instruction, co-éducation, tous ces termes qui traversent votre livre. Vous parlez également de gémination. C'est peut-être le moment de s'arrêter un instant sur ces mots qui ne recouvrent pas tous la même réalité. Quelle distinction est-ce qu'il faut faire ?
Alors, co-éducation, je vous le disais, c'est la traduction de co-education, et il y a la notion de, pour nous, Françaises et Français, d'une éducation complète, à la fois intellectuelle et puis dans le savoir-être et le vivre ensemble. Lorsque l'on parle de co-instruction ou de co-enseignement, on est dans le co, c'est cum, hein, c'est avec, on est avec pour apprendre, un point c'est tout. Et c'est finalement la façon dont est organisé le mélange des sexes dans l'entre-deux-guerres et même dans les années 50 et pendant longtemps. C'est devenu d'ailleurs ce que l'on a appelé la mixité à partir de 1956. Alors ça, c'est écrit en 56, mais le mot, il devait être dit avant qu'on puisse le lire dans un imprimé. Et ça devient quelque chose d'un peu informe, hein, et de banal aussi, d'évident, qui ne se discute pas, mais qui ne se réfléchit pas. Et pourtant, ce sont des relations de filles et de garçons, de femmes et d'hommes qui sont en jeu. Et alors, au milieu de tout ça, il y a ce terme « gémination » qui est utilisé au 19e siècle, qui est encore utilisé dans les années 50 dans le secondaire, mais qui, dans l'entre-deux-guerres, va être l'objet d'une véritable bataille idéologique et qui concerne l'enseignement primaire. Alors, gémination, c'est un terme qui est utilisé en sciences naturelles pour évoquer la présence de petites filles et de petits garçons dans une même salle de classe. Alors en fait, c'est une façon d'édulcorer la question. Et il y avait énormément de classes, de villages, parce que les communes n'ont pas beaucoup de moyens, où on accueillait des enfants-filles et des enfants-garçons dans la même salle de classe sur le critère de l'âge. C'est ce que l'on appelait la gémination. Ça permettait de faire des classes uniques et d'éviter aux établissements, aux communes, d'avoir deux écoles. Ça permettait aussi aux enseignants et enseignantes d'avoir moins de niveaux. Et donc, c'était moins fatigant pour eux. Et dans les années 30, au début des années 30, il y a un véritable débat à l'Assemblée autour de la question de la gémination qui va être votée et adoptée en 1933 sous l'égide de Herriot. Et c'est notamment Jean Guiraud, le rédacteur en chef de La Croix, qui était aussi rédacteur d'une petite revue un peu à compte d'auteur qui s'appelait École et Famille, qui était vent debout contre cette idée de gémination. Donc il y a eu une véritable bataille autour de cette question-là, mais qui concernait essentiellement le primaire.
Cette position du rédacteur en chef de La Croix était révélatrice toujours de ce que l'Église considérait comme étant quelque chose d'un peu contre nature ?
D'un état d'esprit d'un certain nombre de catholiques. En fait, toutes les familles catholiques, puis de toute façon la France entière était catholique quasiment, mais cette fermeté derrière une pensée rigoriste n'est pas suivie puisque les parents mettent leurs enfants dans ces classes-là et dans ces écoles-là parce que ça les arrange, parce que finalement ils n'y voient pas à mal et que dans une famille, les frères et les sœurs vivent dans la même maison, mangent à la même table. Donc il y avait un décalage entre l'idéologie finalement, je crois qu'on peut dire le terme, et puis la vie quotidienne.
La suite de l'histoire.
En attendant, l'évolution donc qui va conduire à cette mixité se poursuit. La Deuxième Guerre mondiale intervient. Mmh. Là, pareil, ça change rien particulièrement en termes d'éducation et d'instruction, d'accès aux études.
Les sources sont extrêmement pauvres, si ce n'est inexistantes. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la raison de cette recherche, enfin, une des causes de ma recherche, c'est lorsque l'un de mes oncles m'a annoncé que lorsqu'il était au collège de Carpentras, un collège de garçons, ancien collège jésuite, il y avait des filles dans sa classe. Et il était en 4e, 3e en 1941, 42, 43. Et quand il me raconte ça, je lui dis, mais non, c'est pas possible. De toute façon, il n'y a eu qu'en 1938 un lycée, celui de Marcelin Berthelot, qui accueillait des filles dans un lycée de garçons qui venait de cette construction.
Et lui, vous affirmez le contraire.
Il m'affirme que si, il y a Madeleine et Georgette. Je me souviens de ses prénoms. Et ça a vraiment tilté, et c'est à ce moment-là que je suis allée vérifier dans les archives départementales d'Avignon, et qu'en effet, j'y suis retombée sur les listes, et qu'il avait tout à fait raison, et puis derrière, eh bien, il y
ça
avait...
Ça vous a intrigué.
Ça m'a intriguée. Alors, pendant la guerre, en effet, bon, à Carpentras, les circonstances sont particulières, il y a eu un certain nombre de... En fait, les filles sont rentrées dès 1926, la première fille, c'est la fille du professeur de dessin qui demande son admission, elle est en sixième, et puis je vois que des filles sont inscrites, on les voit aussi sur les photos de classe. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, elles sont un peu plus nombreuses, mais Carpentras a aussi accueilli des familles réfugiées d'Alsace, par exemple, de façon assez importante. Donc ça a gonflé aussi les effectifs du collège.
Et alors après, le processus continue? Et alors, il faut attendre les années 50 vraiment pour que ça commence à prendre de l'ampleur?
Oui, alors... Il y a eu, ce qui est assez étonnant, le plan Langevin-Wallon qui prévoit le système éducatif de l'après-guerre. La mixité et l'histoire du co-enseignement ne leur est pas venue à l'esprit, il n'en est absolument pas question. Il n'empêche que dès la sortie de la guerre, il faut remettre en route un système éducatif efficace. Tout le monde, filles ou garçons, ont accès à l'enseignement secondaire. Et les lycées qui, ils sont absolument pas neufs parce que la plupart sont logés dans des vieux châteaux. Mais les nouveaux lycées, qui sont d'abord des annexes de grands lycées avant de devenir des lycées autonomes, sont pour beaucoup des lycées qui vont accueillir des filles et des garçons.
Parce que les mentalités ont évolué.
Oui. C'est vraiment une question de mentalité qui évolue et qui évolue plus vite que la réglementation et les lois. Donc ça évolue au point qu'en 1952, ça a reconfirmé en 1957, eh bien il y a deux circulaires qui vont proposer et rassurer les chefs d'établissement pour les internats mixtes. Et finalement, on peut réaliser que beaucoup de gros établissements qui ont des internats où il y a des filles et des garçons. Et on n'en parlait pas, on ne le sait pas réellement.
Les précautions dont on a parlé précédemment, on continue d'être très attentif à ce qu'elles soient respectées.
Et quand on parle d'internat mixte, on a des étages pour les filles et des étages pour les garçons. On les sépare au cours des repas. L'enseignement sportif est séparé pendant très très longtemps. Donc oui, on est attentif à ce qu'ils ne se rencontrent pas trop.
Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, moi je distribue des corrections, faut faire attention. Comme un garçon, pourtant, je ne suis qu'une fille. Mais quand je suis dans tes bras, oh, je ne suis qu'une petite fille perdue quand tu n'es plus là.
En termes de tenue vestimentaire, il y a une rigueur vis-à-vis des filles.
Vous savez, pendant longtemps, on a porté la blouse. Mais comme les garçons, hein. Les garçons et les filles portaient des blouses. Donc ça ne se voyait pas. Mais ça, c'est une question d'éducation des filles. Elles, pendant longtemps aussi, elles n'avaient pas le droit aux pantalons. Bien que j'ai trouvé une photo de 1946 où je vois une fille avec un pantalon, mais on sent que la photo a été prise quand il faisait froid, c'était l'hiver.
Est-ce que les sciences humaines jouent un rôle? Est-ce que les spécialistes de l'éducation s'intéressent à ces questions-là?
Eh bien non. C'est ça qui est assez, j'allais dire, extraordinaire. C'est cette évolution qui découle d'une transformation, d'une mutation des mentalités de la société française, n'intéresse pas les sciences humaines, ou extrêmement peu. En fait, il a fallu vraiment chercher dans les recoins pour trouver des auteurs qui vont s'intéresser à la question. Alors, il y a, je vous en ai parlé l'autre jour, Odette Brunswick, qui, en 1961, fait un véritable texte et plaidoyer pour l'enseignement mixte dans une revue éducative. Sinon, il y a l'école des parents et puis les cahiers pédagogiques qui commencent à s'intéresser à cette question. Mais en fait, il n'y a pas de véritable dossier de sociologue qui a creusé l'affaire.
Parce que la question de la maturité, par exemple, c'est quelque chose qui revient souvent. On entendait des objections disant qu'on n'enseignait pas de la même manière aux filles, aux garçons, la psychologie était différente.
Oui. Dans les quelques traités, essais, articles qui questionnent la situation, on reprend en fait des arguments et des argumentaires que l'on avait au 19e siècle et un petit peu dans l'entre-deux-guerres. Finalement, c'est quand même l'école nouvelle qui a poussé aussi à la pensée de ce que l'on appelait la coéducation alors que l'on pratiquait de la co-instruction. Mais quand même, l'école nouvelle a, elle, depuis le 19e siècle, fait des tentatives de coéducation, mais pas en France en fait, c'est plutôt en Allemagne ou en Angleterre.
Est-ce que 1956 est une date à retenir?
Non. Si ce n'est que c'est la date où l'on trouve le mot écrit dans un article. Voilà. Mais par contre, les circulaires de 1952, de 1957, oui, le ministère de l'Éducation, c'est devenu le ministère de l'Éducation nationale, lui, en 1954, fait un récapitulatif de la situation de tous les établissements de France dans lequel il y a le critère établissement mixte. Et ça, c'est la première fois aussi, 1954. Là, début des années 50, sous l'égide de Monod.
Les Trente Glorieuses, Geneviève Peuzeux, marquent une période assez florissante en France, avec un essor notamment économique et puis démographique aussi. Ça se traduit comment sur le plan de l'éducation et de la co-instruction ou de la mixité? Désormais, on peut en parler sans faire d'anachronisme pour les filles et les garçons.
Et oui, les Trente Glorieuses et Baby Boom. Donc, il faut accueillir tous les enfants qui arrivent sur le marché de l'école. En plus, en 1959, on va légiférer pour que les enfants et les jeunes soient scolarisés jusqu'à 16 ans. Ce qui veut dire qu'il faut encore plus de moyens pour les accueillir.
Auparavant, c'était 14 ans ?
Oui, 14 ans. Donc, ça a été dans les années 50, on en a conscience, on le prévoit et on va construire énormément d'établissements scolaires secondaires.
Collège et lycée.
Oui, collège et lycée. Donc c'est toujours un peu le système collèges municipaux et lycées d'État. Ça bouge et ça évolue hein, dans cette période-là. C'est très compliqué, donc on va pas rentrer dans les détails. Ouais. Ce qui fait qu'il y a encore une multitude de situations différentes, parce que tous les anciens établissements qui étaient pour les garçons restent des établissements de garçons, qui étaient pour les filles restent des établissements de filles, ce qui ne les empêche pas d'accueillir des garçons ou d'accueillir des filles. Et puis tous les nouveaux établissements, il y en a eu énormément en 1958. 58 marque vraiment une période florissante pour les lycées. Naissent et mixtes. Ils sont ouverts en étant mixtes, vont accueillir des filles et des garçons dès le départ. Ça multiplie finalement les possibilités pour les élèves d'être dans un enseignement mixte. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que dans l'histoire de l'élève, il pouvait très bien se retrouver dans une classe non mixte en classe primaire, se retrouver dans une classe mixte en sixième et puis à nouveau non mixte en seconde. Et toutes les configurations sont possibles et imaginables.
En termes d'effectifs, les filles représentent quel pourcentage des jeunes scolarisés? Est-ce que ça reste quand même moins important que les garçons?
Ah mais non, parce que c'est obligatoire. Par contre, elles sont moins nombreuses après 14 ans. Parce que la loi Berthoin, 16 ans, après il a fallu le temps que ça se mette en route. Donc c'est au milieu des années 60 que vraiment...
Mais pour les études supérieures?
Elles sont moins nombreuses aussi.
Hein. Elles restent moins nombreuses.
On dit généralement que c'est en 1970 qu'il y a autant de filles que de garçons qui se présentent au baccalauréat. Et surtout qu'elles sont plus nombreuses à l'obtenir.
68 a marqué un tournant?
Non, ça avait commencé avant. On est dans un mouvement ascendant depuis les années 50, en fait.
Toujours cette histoire de mentalité, d'évolution des mentalités
ouais.
Après, et de la société.
Oui, tout à fait. 68, c'est pas un hasard. n'arrive pas d'un seul coup. En fait, il y a une vraie préparation. Et puis, bon, là, c'est l'explosion. D'ailleurs, autour d'une question de la mixité dans les chambres d'étudiants à Nanterre, mais c'était entre étudiants. Hein, donc là, on est dans l'enseignement supérieur. Mon sujet, c'est l'école.
En termes de choix de filière, est-ce qu'il y a quelque chose à souligner concernant les centres d'intérêt des filles plus particulièrement?
Oui, vous savez, c'est toujours d'actualité. Les mentalités changent, mais en même temps, elles sont lentes dans leur transformation.
Les filles, c'est plutôt des littéraires.
De manière générale, c'est un jeu de miroir. Elles sont envoyées vers l'attrait du littéraire. Elles l'intègrent aussi dans leur socialisation, dans leur éducation, et donc elles font des choix qui ne seront pas aussi ouverts que pour les garçons, parce que finalement, c'est ça qui est un peu dommage et qui devient, par la même occasion, d'une certaine manière injuste, c'est qu'elles s'offrent moins de choix parce qu'on leur propose une vision plus resserrée dans des images littéraires.
Elles en sont imprégnées, quoi, de cette conviction. Mmh. Ouais. On trouve toujours moins de filles
dans les
sections et les filières scientifiques.
Alors, si on parle d'aujourd'hui, hein, cet écart, on le retrouve après le baccalauréat. Jusqu'en terminale, quand on regarde la composition des terminales, alors elles étaient S, maintenant ça n'existe plus, donc on verra ce que ça donne avec la réforme. Hein. Mais bon, jusqu'à ce que l'on puisse regarder ce qui se passait avec les filières S, L et ES, en S, bon, elles sont un tout petit peu moins nombreuses, mais c'était l'ordre de 46-47% de filles pour 53% de garçons dans les classes de S, donc c'est à peu près kiff-kiff. Mais au moment des choix supérieurs et donc de l'orientation professionnelle, là, l'écart est très important. On le retrouve dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Et dans les classes de L, c'est pas qu'il y a beaucoup de filles, hein, parce que les classes de L, elles sont jamais très remplies, mais c'est surtout que les garçons n'y vont pas.
Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat?
Vous avez dit tout à l'heure que les filles obtiennent plus facilement le bac.
Et elles réussissent mieux. Elles réussissent mieux.
De manière générale.
De manière générale. Les diplômes, les examens, elles sont partout gagnantes en éducation. On peut aussi l'expliquer, alors il n'y a pas que cela peut-être, mais dans la socialisation et la façon dont on éduque nos filles et dont on éduque nos garçons. Hein. C'est-à-dire que ce qu'elles apprennent à être leur donne une meilleure posture pour être des bonnes élèves. Le fait d'être plus patiente, plus posée, donc finalement plus concentrée, les conduisent à avoir un chemin d'écolière et puis de collégienne et de lycéenne qui sera plus performant, plus efficace.
Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui en France des établissements publics qui ne pratiquent pas la mixité?
Oui, il y en a un. C'est celui de la Légion d'honneur.
C'est une tradition, là.
Oui. Ah oui, c'est depuis le départ et c'est le seul lycée d'État réservé aux filles, alors qu'il n'y en a plus pour les garçons.
Du côté de l'enseignement privé cette fois, oui. C'est quelque chose qu'on trouve encore
oui,
de manière
oui.
assez fréquente.
fréquente, je n'ai pas la quantité, hein, le nombre de, mm-hmm. d'établissements qui pratiquent la non-mixité. Ce que je sais, c'est qu'il y a aussi des tentatives de retour, j'allais dire en arrière, parce que je sais par exemple toujours à Carpentras, une grosse communauté d'établissements privés ont organisé là ces dernières années, je crois pour les classes de collège, une séparation entre les filles et les garçons, avec une partie pour les filles et une autre partie dans la ville pour les garçons. Il paraîtrait qu'ils seraient revenus à la notion de mixité. Alors, les arguments, c'est assez étonnant, sont ceux que l'on avançait au 19e et au début du 20e siècle pour promouvoir la mixité.
C'est-à-dire
ouais, c'est l'idée que finalement, les filles sont brillantes, mais sont dérangées par les garçons, ce qui les empêche d'avancer, et que les garçons, eux, sont gênés par la concurrence des filles, et donc ne peuvent pas être à la hauteur. Donc il vaut mieux que chacun et chacune ait leur propre chemin pour s'épanouir. Alors que c'était le contraire lorsque l'on défendait la coéducation ou la co-instruction, c'était de dire qu'il y avait une véritable émulation et que finalement le mélange était intéressant pour faire avancer tous les élèves, qu'ils soient filles ou garçons.
On peut peut-être désormais s'appuyer sur des études qui sont faites justement d'un point de vue anthropologique, sociologique, psychologique.
Eh bien, non.
Non.
C'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on a très peu d'études et on n'a pas. On a très peu d'études. Il y en a quelques-unes, mais qui sont difficilement transposables à ce qui se passe en France, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, mais elles sont pas vraiment parvenues jusqu'à nous parce qu'il y a plein de biais. En fait, dans ces études, et il faut vraiment se méfier de ce qu'elles disent. On se rend compte, en fait, sur un certain nombre d'études, que les projections que font les enseignants sur leurs élèves lorsqu'il n'y a que des filles ou lorsqu'il n'y a que des garçons ne sont pas les mêmes, et donc ils n'ont pas les mêmes attentes et ils vont avoir des exigences plus ou moins importantes, ce qui n'élève pas le niveau de ces classes non mixtes. Donc, en fait, il y a un véritable travail de réflexion à faire sur qu'est-ce que fait le mélange des filles et des garçons. Mais il y a à la fois un travail sur l'aspect pédagogique de l'apprentissage de l'instruction, hein, du savoir. Mais en même temps, c'est un laboratoire des relations et des rapports sociaux entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons. Apprendre à vivre ensemble et à se connaître. Et derrière, il y a d'ailleurs toujours la question de la sexualité. Hein. Et à l'adolescence, c'est un marqueur. Moi, je pense que vraiment sur les questions de relations de violence, de cyberharcèlement, c'est lié à cette question de la mixité. Mais qu'est-ce que c'est que la mixité? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on la gère? Elle fait partie de notre quotidien, on vit ensemble, c'est notre vie à nous tous et nous toutes. Et en même temps, comment on l'organise, comment on en fait la promotion pour qu'elle devienne un projet d'éducation.
Un projet de société aussi.
Et un projet de société.
Merci beaucoup Geneviève Peuzeux. Je rappelle que vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule « Des filles chez les garçons, l'apprentissage de la mixité ». Ce livre est paru aux éditions Vendémiaire. Merci beaucoup à vous.
Pendant le confinement.
À lire donc encore. Et merci à Pierre-Henri Paget qui a assuré la technique.